Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanettetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettetrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour.
Bonsoir à tous, bonsoir Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu Antoine?
Très bien, merci. Merci pour cette invitation, ça me fait très plaisir. C'est parti pour la soirée, je suis tout disponible.
Exactement, alors on est parti pour environ une heure d'échange avec Antoine. Vous pourrez poser toutes vos questions pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission. Vous pourrez poser toutes vos questions à Antoine pendant cette heure d'échange et on y répondra avec grand plaisir. Mais en attendant, Antoine, il y a une question qui est traditionnelle à cette émission pour démarrer nos échanges. C'est que tu nous rappelles ton premier trail.
Alors, mon premier trail, c'était en 2002 et c'était la course des Templiers. J'ai commencé directement par un 70 km. Je m'en souviens bien parce que c'était quand même un peu long par rapport à ma préparation, modeste préparation du moment. Ça m'a permis de connaître le fond du trou pour remonter et avoir la surprise de voir que le corps avait des réserves. Et c'est comme ça que j'ai été vraiment mordu par la discipline. C'est la curiosité d'essayer de comprendre pourquoi j'avais réussi à reprendre du poil de la bête alors que je me sentais au bord de l'abandon à mi-course. Donc ça a été une révélation ce jour-là, donc une épreuve où j'en ai bien bavé.
C'est vrai que, d'ailleurs, est-ce que tu as trouvé la réponse? Je rebondis tout de suite sur ce sujet-là. D'ailleurs, pourquoi est-ce que notre corps revient? C'est quand même contre-intuitif, c'est pas naturellement, on se dit comment ça se fait que je peux remonter la pente? Est-ce que tu sais pourquoi ça fait ça et comment l'anticiper et le savoir qu'on ne se met pas dans le rouge et que en fait, notre corps va répondre un jour?
Je pense que sur le moment, ce qui s'était passé, là, quand je manquais un peu d'entraînement, bon, je pense que j'avais pas des super réserves de glycogène, que j'avais peut-être pas fait la meilleure des alimentations. Et je crois que j'avais pas de toute façon assez de bottes de préparation. Donc il y a un moment je me sentais moins bien et puis je crois que ce qui se produit ensuite c'est que on prend un rythme plus doux et à ce moment-là on n'est plus sur la même filière énergétique, on est davantage sur la lipolyse et là à ce moment-là on dispose de beaucoup de réserves. Je crois que si on n'est pas attentif, qu'on va un peu fort sur une compétition, on dépense tout son glycogène assez rapidement, ou plus ou moins rapidement. Et après, il faut bien fonctionner sur un autre mode énergétique. Et la lipolyse demande plus d'énergie. On est obligé d'aller beaucoup moins vite, d'avoir des battements cardiaques plus lents pour être capable de la dégrader, cette graisse. Et donc, je pense que ça correspond un peu à ça. Bon, puis après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la part psychologique, il y a la fatigue musculaire qui entre aussi en compte et qui nous amène à baisser un peu de régime. Et puis si sur les longues distances, on arrive à entre-temps à s'alimenter sur les points de ravitaillement, ça peut constituer un petit bonus énergétique pour la fin de course et avoir la possibilité de réaccélérer et d'avoir vraiment la joie d'aller un peu plus fort en fin de course.
Ah, c'est vrai que tous ceux qui ont connu ça, ce regain d'énergie, là, ça a toujours, c'est un peu euphorisant. Donc il y a toujours je vois très bien de quoi tu parles. À force de faire des échanges comme ça le mercredi soir, j'ai constaté qu'il y avait toujours deux écoles quand je pose cette première question de ton premier trail. Il y a souvent les personnes qui ont progressé comme ça avec les distances, et puis il y a aussi ceux qui ont commencé du coup avec des grosses distances comme toi, du coup tu l'as fait. Comment tu t'es dit je vais faire 70 km, enfin c'est pas raisonnable. Et comment est-ce que tu t'es dit dans les textes, c'est pas raisonnable de faire ça? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, je vais le faire? Est-ce qu'avant, tu avais un passé sportif quand même assez important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont, même après des années d'entraînement, ils sont pas capables de faire 70 km.
Comment est-ce que je courais depuis longtemps. Hein. J'ai commencé quand j'avais 12 ans. Donc, tu vois, je pense que j'avais déjà une vingtaine d'années d'expérience. Il y a eu des petites coupures entre temps, mais ça faisait au total une bonne vingtaine d'années de course à pied avant d'attaquer. Ce qui fait que j'avais un passé, j'étais capable de, je pense, d'encaisser la durée, le kilométrage, pas forcément d'être performant, mais en tout cas de l'encaisser, c'était possible. Et puis en tout cas, l'idée, elle venait pas de moi. Je me suis laissé un peu embarquer. C'était un copain qui m'avait fait remarquer qu'il y avait cette compétition dans l'Aveyron. À ce moment-là, je connaissais à peine je crois même que je connaissais pas le trail. En fait, je courais un peu dans les chemins, mais je connaissais pas le trail. Je savais pas ce que c'était qu'une compétition de trail. Je courais, on va dire, 3 fois par semaine sur la route, 2 fois dans les chemins. Et là, j'ai été propulsé dans un environnement montagneux avec des rochers et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a tout de suite plu. Mais c'est vrai que c'est pas forcément raisonnable de s'engager sur des longues distances d'emblée. D'ailleurs, je l'ai un peu payé. Et puis après la course, moi, je me suis pas fait mal pendant, mais après, j'arrivais pas à descendre un trottoir. C'était une catastrophe. Hein. Ça a été une semaine de souffrance. Mais avec cette envie d'y revenir. On est un peu maso, hein, je pense, quand on fait du trail longue distance. Peut-être c'est cette curiosité de savoir si on peut dominer le sujet, se dominer, parce que c'est une expérience où on se retrouve quelque part un petit peu face à soi-même, en tout cas, et parfois un petit peu en échec aussi. Et il faut franchir les obstacles pour arriver au bout. Et c'est quand même une grande satisfaction, mais si ça n'a pas été parfait, on a envie d'y retourner pour voir si on peut pas faire mieux, et si on fait mieux, pourquoi pas plus long pour voir comment ça se passe.
C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu addictif de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir remettre un dossard. Maintenant, même si ça fait longtemps qu'on n'en a pas tous mis, les dossards, malheureusement. Mais il y a ce côté addictif de vouloir recommencer. Et du coup, toi, ça a été ton cas. Tu t'es dit, tiens, allez, ce 70-là, il va falloir que j'en remette un derrière. Et combien de temps ça a été derrière, du coup, le suivant?
Alors, les Templiers, c'était en octobre. Je crois qu'en janvier, j'avais fait une course. Ouais, c'est ça. En janvier, j'ai renquillé pour, un 50 km sur la neige dans l'Aubrac, une course qui ne se fait plus. Et ensuite l'Ariège-Pyrénées qui devait être en mars-avril, encore un 70 km. Bon, ça me laissait un petit peu le temps de récupérer entre, ça allait. Et puis j'ai quand même progressé entre, et surtout je me suis mis à courir davantage sur les chemins et délaisser quasiment complètement la route, et ça allait déjà beaucoup mieux, surtout en mettant un petit peu plus de dénivelé qu'auparavant.
Ok. Et quelles ont été tes premières erreurs, si t'en as identifié, qui pourraient servir à tous ceux qui se lancent sur l'ultra trail? Quelles ont été, toi, tes premières erreurs que tu conseillerais d'éviter?
C'est un peu personnel, mais j'ai quand même constaté que c'était dans l'alimentation que ça pêchait, quoi. Pour faire bien, moi je lisais des revues qui mettaient en avant certains produits. Alors j'ai testé les gâteaux tout faits là pour le petit déj. Bon, après c'est un peu bourratif, c'est lourd. On a fait 10-15 km, on l'a encore dans l'estomac. Après on prend un gel par-dessus et on a des pics de glycémie. Bon, on avance encore, mais c'est pas fluide, quoi. Donc même parfois ça m'a rendu malade, donc j'ai changé progressivement d'habitude, mais il a fallu beaucoup de temps pour trouver les bonnes astuces. Et puis je dirais que dans les années entre 2002 et 2005, on était un petit peu des précurseurs aussi, et on a défriché un petit peu le terrain pour trouver des astuces, enfin ce qui pouvait fonctionner idéalement. Hein. Quand on a commencé le trail, on faisait que courir. C'est rare étaient les personnes qui faisaient un deuxième sport à côté, ski, vélo. C'était le début. Hein. Donc ça aussi, ça a été, je pense, une des erreurs, c'était de faire que du trail et après de se rendre compte que on se sentait beaucoup mieux physiquement et on progressait plus vite en mettant un second sport à côté, un sport porté de préférence. Voilà, les erreurs elles sont là. Après les gestions, les erreurs de gestion de course, aller trop vite ou pas assez vite, ça c'est propre à chacun. Et puis il y a des jours on tente un peu plus rapide, bon bah on se prend une claque ou pas, c'est comme ça qu'on progresse aussi, hein.
C'est vrai que tu es un fervent défenseur du sport croisé, de l'entraînement croisé, parce que tu fais pas mal de VTT avec. Et ça, du coup, c'est quelque chose que tu recommandes vraiment de pratiquer un deuxième sport que souvent porté. C'est vrai que c'est souvent ce qu'on dit. Et toi, tu l'as constaté que c'est vraiment quelque chose qui t'a fait progresser de façon vraiment importante.
Ouais, même spectaculaire, hein, parce que l'avantage c'est qu'on peut rajouter des heures d'entraînement sans risque de blessure. Ben là, le VTT, en fait, je précise que je le fais sur la route, hein, je le fais pas dans les chemins, je suis pas technique, et puis j'aurais peur de me faire mal, et puis aussi, ce serait trop intense, il y a trop de changements des variations cardiaques dans le VTT pur. Donc moi, je suis sur route, quand je m'en sers comme un vélo. L'intérêt, c'est de faire donc des heures sans risque de blessure. Il y a également un intérêt aussi musculaire, on développe pas tout à fait les mêmes muscles et ils nous servent dans le dénivelé, qu'il soit positif ou négatif. C'est aussi un sport qui permet de reprendre plus vite derrière une compétition. Rien n'empêche 3 jours après de faire du vélo en moulinant un peu, hein, sans appuyer fort. Ça permet d'avoir une récupération active, de pas faire de coupure. Et puis c'est aussi un sport qui permet de gérer sa saison quand on a des petits bobos, parce qu'on ne manque pas d'avoir des petits bobos quand on fait du trail, on peut avoir des chocs, se payer un caillou, un début d'inflammation, enfin qu'importe. Le vélo, c'est bien rare d'avoir une blessure qui empêche de faire du vélo, et il est là pour justement rendre fluide tout l'entraînement mensuel.
Et alors pourquoi prendre un VTT et pas un vélo de route?
Bah parce qu'un jour sur une course j'ai gagné un VTT donc ça m'allait très bien. J'ai pas cherché à acheter un vélo de route. C'est pas la vitesse qui m'intéresse spécialement. Ce qui m'intéresse c'est la durée de l'effort et puis aussi l'effort finalement d'un VTT comparé à celui d'un vélo. Bon, c'est que à la fois je vais pas vite et sans aller trop vite, l'effort est conséquent parce que c'est lourd. Donc quand je fais des grands cols avec, où je fais des sorties, ça m'arrive de faire des sorties de 150 bornes avec le VTT, bah, je les sens passer, hein. Donc ça me va très bien.
Alors, tu en as parlé un petit peu de l'alimentation, c'est vrai que c'est quelque chose qui, toi, t'a vraiment beaucoup aidé pour progresser, et même pour ton alimentation au quotidien, tu as décidé même d'en écrire un livre. C'est vrai qu'on entend vraiment de tout sur l'alimentation, c'est un sujet qui est assez délicat parce que chaque personne est différente et puis quelque chose qui va correspondre à l'un ne va pas correspondre à l'autre. Toi, comment est-ce que tu aurais des conseils qui sont presque universels et qui peuvent servir finalement à tout le monde et qui seraient peut-être aussi dans ton livre ?
Moi, ce que je conseille avant tout, c'est de ne pas tomber dans les extrêmes, de ne pas être toujours sur un régime sans ceci, sans cela, ou alors exclusif. Je pense qu'il faut garder un plaisir, hein, dans l'alimentation, parce que je pense que si on est dans la contrainte, ça va un temps, mais il y a un moment où le naturel revient, hein, donc revient, et pour être plus dévastateur encore. Donc je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre où on se fait plaisir, où on a connaissance de ce qui est mieux, ce qui est moins bien, et savoir, voilà, en connaissance de cause, que lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas idéal, Bah, le lendemain, on va corriger, on va faire mieux. Moi, je dis souvent, il vaut mieux éviter tout ce qui est acidifiant. Pour moi, c'est la base. Éviter ce qui est trop acidifiant. Bah, si on n'a pas le choix ou si on veut se faire plaisir avec un aliment qui présente tout l'inverse, qui est vraiment acidifiant, et bah, rien n'empêche dans le repas d'y apporter d'autres aliments qui, eux, sont très basiques. Et puis, ça fait une sorte d'équilibre. Donc, moi, je suis plus dans la réflexion. Savoir ce qu'on mange, éviter trop les écarts, et puis si on en fait, eh bien, savoir qu'on peut le corriger en étant un peu plus attentif dans la foulée.
C'est vrai que c'est un bon conseil, je pense, de pas être extrémiste, et puis moi je pense que quand on mange quelque chose qui est pas bon, qui est pas sain, instinctivement on le sait. Il y a souvent cet exemple de si tu montres une pomme qui est complètement pourrie et une pomme qui est bien mûre à quelqu'un, même si ce quelqu'un n'a jamais vu de pomme, il va forcément se tourner vers la pomme qui est bien rouge, bien mûre, qui est belle, parce que effectivement, on sait ce qui est bon et ce qui est pas bon pour notre corps. Et du coup, écouter notre corps, c'est souvent une bonne idée.
C'est une bonne idée, ouais, c'est une bonne idée. Je pense qu'il faut fonctionner, alors pas que à l'envie, parce qu'on n'a pas forcément des envies qui sont guidées par des bonnes réflexions. Hein, parce que ça peut être même d'ailleurs une envie où il n'y a pas de réflexion du tout derrière. Par exemple, le sucre, la graisse, c'est pas le top. Et si on en mange un peu, il y a une sorte d'addiction hein, sur ces produits-là. Et on aurait tendance à se diriger plutôt vers eux. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut apprendre aussi, se renseigner, il faut lire, et puis comme ça on évite les plus gros pièges, je dirais.
Ok, super. Alors je vous disais au tout début de l'émission que vous pouvez poser toutes vos questions à Antoine, et là donc on a Inquiète en basket à Chamonix qui nous demande donc une vie de trail, une longévité incroyable. Quel est ton secret pour garder cette pêche unique? L'entraînement croisé est ton secret. Alors l'entraînement croisé, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que finalement, tu as une durée dans ce sport qui est assez incroyable et tu te blesses jamais?
Non, je me blesse jamais. Alors comme je disais tout à l'heure, je peux avoir des petits bobos, hein, des débuts d'inflammation, des petites choses. Mais comme je fais du vélo aussi à côté pour compenser, ça me permet de passer sans aggravation et puis donc du coup de pas me faire mal. Je pense que je suis aussi assez raisonnable dans les distances, hein, bien sûr, on est d'accord, mais raisonnable parce que je pousse pas mon corps. Je fais pas des séances dures, je vais pas faire des vitesses excessives à l'entraînement. Je suis plutôt sur l'endurance, sur la balade, la rando course, parfois un petit peu de seuil, mais vraiment pas risqué. Et puis je fais par exemple, ça me viendrait pas l'idée de faire des accélérations en descente. Je fais gaffe. En fait, je crois que j'ai toujours fait attention, mais ça m'empêche pas de faire beaucoup d'heures. Par contre, hein, je m'entraîne quand même pas mal. Hein. Il y a des semaines à 30 heures. La semaine dernière, c'est une semaine à 30 heures. Celle-là va être pas mal avec le défi du week-end. Donc je fais des heures, mais je les fais à un rythme assez pépère. Et puis, je développe pas mal de puissance musculaire avec beaucoup de dénivelé. Avec mon vélo, je suis plutôt sur des pédalages lents que sur de la vélocité. Et en fait, ça me donne une puissance musculaire que j'arrive à retranscrire en vitesse finalement. Parce que pour donner un exemple, sur mes entraînements, j'atteins jamais 15 km/h, hein, jamais. De l'année, hein, aucune fois. Mais par contre, ça m'empêche pas de prendre un départ de la Diagonale des Fous à 16 km/h pendant 3-4 bornes, où il y a des trails qui sont un peu plus courts sur des 80 bornes, où on a des phases roulantes, où là ça file bien plus vite qu'à l'entraînement. Je pense qu'en développant une bonne puissance musculaire, on arrive finalement à avoir une vitesse assez intéressante parce qu'on est costaud sur ses appuis. On a développé l'économie de course aussi. Et puis surtout, on a une fraîcheur. Une fraîcheur et le jour J, eh ben, on est disponible 100% avec un mental 100% et il n'y a pas de faille, quoi. Et à ce moment-là, on est solide dans son esprit aussi, c'est super important. Et là, on va au bout des choses. Et donc, la longévité, elle va de pair. Et puis, ce qui est aussi important, c'est d'avoir toujours des objectifs aussi. C'est-à-dire, avoir des objectifs, c'est bien. Faire un gros objectif dans son année, c'est bien. Mais il faut déjà avoir en tête d'autres objectifs derrière, de manière à pas avoir un vide, se retrouver désemparé. On va vite même à la dépression. Il y a des coureurs qui vont à la dépression parce que ils ont vécu un moment extraordinaire. C'était ce dont ils rêvaient depuis longtemps. Et puis derrière, il n'y a plus rien. Moi, j'ai toujours des tas d'idées en tête, des défis. J'ai pas assez de temps pour faire tout ce que je veux. Voilà. Et ça, c'est génial. J'irais pas avoir assez de temps pour tout faire. C'est super bon signe. Et dans tout, dans la vie, hein, je pense que si à la fin de la journée, on se dit, la journée était encore trop courte. Ouais, si on veut me faire un cadeau, j'aimerais plus que 24 heures dans la journée. Voilà. Là, ça me rendrait service.
Il y a un livre qui s'appelle la 25e heure, quelque chose comme ça, pour avoir plus de temps dans sa journée. mais c'est vrai, c'est très vrai ce que tu dis. Moi, c'est vrai que personnellement, c'est un petit truc qui me fait un peu peur parce que j'ai un gros objectif sur la Diagonale des Fous et qui m'anime, qui me fait rêver depuis des dizaines d'années, enfin, même si j'en ai que 30. Et c'est vrai que ce syndrome un petit peu d'après, de déprime, de dire ça y est, ce rêve est accompli. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de trailers et c'est bien d'en parler parce que sinon on peut penser qu'on n'est pas normal si on le vit. Et donc c'est bien d'en parler parce que c'est un sujet dont on ne parle pas souvent.
Oui.
Donc on a Ben qui dit « Bonjour Antoine, est-ce que ta curiosité pourrait t'amener à venir tester le dénivelé breton ?» J'étais obligé d'afficher cette question.
Oui. Il y a du délit d'initié, là. ouais, bien sûr, oui. J'y ai couru peut-être il y a 2 ans avec un sponsor, le groupe Unifer, là, du Team Globe Trailer. On avait fait le tour de Belle-Île. Ça, j'étais ravi, hein, vraiment. Et j'ai eu une occasion de participer à un petit stage aussi en Bretagne. Avec le groupe Yanou, c'est Yanou je crois, oui c'est Yanou, et j'aurai d'autres occasions certainement, oui bien sûr, je viendrai, j'aime bien varier, et... oui, vous m'y verrez. Ouais.
Ok, bon allez, sujet clos sur la Bretagne, je vais arrêter d'être un petit peu chauvin. tu peux nous raconter, qu'est-ce qui t'anime justement sur cette Diagonale des Fous? Et qu'est-ce qui fait que tu y retournes aussi régulièrement? Pourquoi cette course et pas une autre alors que tu en as quand même vu un paquet de courses?
Oui, c'est vrai que c'est particulière celle-là. Particulière. Donc ça fait 13 fois que je la fais. C'est une course à laquelle j'ai participé déjà en 2007 pour la première fois. Et donc ça remonte, hein, ça remonte. Et m'avait beaucoup marqué parce que c'était une grande découverte par les paysages, par l'ambiance, le terrain. C'était tout ce que j'aimais dans le trail. Une folle ambiance, pas que des coureurs, mais vraiment tous les gens qui sont autour de l'île, hein, de l'île, on peut le dire. C'est un gros événement sur cette île. Et dès qu'on atterrit à La Réunion une semaine avant, on sent bien que ça vibre déjà. On sent que ça représente quelque chose de très important. Alors, pourquoi tous les ans? Parce que c'est toujours différent, en fait. C'est un terrain qui est tellement particulier. On part du niveau de la mer, on monte à 2500 mètres. C'est super technique, hein, qu'on a très froid, hein, qu'on a très chaud. C'est toujours différent. Les scénarios sont jamais les mêmes. C'est une course qui est très difficile à gérer. Et en fonction de la façon dont on l'appréhende au départ, on va vivre une course totalement différente d'un bout à l'autre, quoi, comparé à d'autres années. Et puis vraiment, il y règne quelque chose de très fort. Bon, dans les ultras, en général, il y règne déjà des ambiances particulières. Mais celui-là, il est encore plus fort parce que ça représente aussi un grand voyage. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se fixent cet objectif pour des raisons particulières, comme quand j'aurai 40 ans, quand j'aurai 50 ans, pour des anniversaires, pour une cause, pour des maladies, dans d'autres ultras ça se voit, mais à La Réunion particulièrement il y en a vraiment beaucoup, ce qui fait que on ressent cette énergie, cette grande volonté des gens quand on est dans le sas de départ. C'est pas comme un autre sas de départ, il y a vraiment quelque chose qui plane dans l'atmosphère. Et alors quand on est libéré de nuit sur ces chemins, c'est assez fantastique. On se retrouve assez rapidement face à soi-même. C'est vraiment un terrain qui pardonne pas. On peut pas être tranquillement en train de discuter sur une piste large. on est toujours confronté à des difficultés. Toujours la vigilance. Moi, X fois, je me suis cassé la binette dans des sentiers. Et pourtant, je fais gaffe. Hein. Donc, c'est vraiment redoutable. Et donc, ça, forcément, ça laisse des souvenirs impérissables. Et puis, on y réfléchit. On l'a fait une fois. On dit comment je pourrais faire mieux. On m'a parlé de tel endroit, j'ai pas fait attention. Parce qu'il y a ça aussi dans le trail. C'est qu'on a des moments où on est dans ses pensées et beaucoup d'introspection. Et puis là, on marche un peu au radar. Et puis, il peut se passer une section peut-être de 10 km. Et puis après, quand on discute avec les copains de telle et telle partie, il y a un blanc. On ne sait pas pourquoi, il y a un blanc. Peut-être même parfois 20 km, 30 km. On ne sait pas, on n'a rien vu. Et donc, le coup d'après, on dit absolument, il faut absolument que je sois plus attentif à cet endroit. Et puis voilà, on vit d'autres moments forts. Voilà pourquoi j'y retourne.
D'accord. Ouais, c'est intéressant ce côté. On est un peu dans un autre monde, parce que ça m'est arrivé aussi de faire des courses et puis après on me demande bah, c'était comment cette portion, je ne sais plus. Donc le côté méditation en courant, et on ne s'ennuie pas en fait quand on court, enfin personnellement je ne m'ennuie pas.
Oui.
Et même toi du coup, même à faire comme ça plusieurs fois, il n'y a pas de lassitude de refaire plusieurs fois le même parcours quoi.
Non, il n'y a pas de lassitude. C'est vrai que le parcours ne change pas beaucoup. Alors, parfois, on le change soi-même, hein, comme on l'a fait il y a 2 ans. On s'est bien paumé pendant 7 km. Voilà, c'est peut-être parce qu'on était trop lassé de faire la même chose. Donc, ça, c'est un petit clin d'œil aux organisateurs s'ils veulent bien changer un peu le parcours. Ça nous évitera de nous endormir.
C'est peut-être ce qu'il a voulu faire, le petit malin qui a enlevé le balisage, ou on ne sait pas trop.
Oui, il a cru bien faire.
C'est ça. Alors du coup, il y a Fleur qui pose une question. Quel est ton plus beau souvenir émotionnel en ultra?
Ah, c'est partagé. Oui, il y en a quand même plusieurs. J'ai très bien vécu, bien sûr, l'année où j'avais gagné la Diagonale des Fous, ça a été très fort parce que j'en rêvais depuis beaucoup d'années. Ça a été très fort, mais je le mettrais au même niveau que mon final sur le Tour des Géants que j'avais partagé avec Christophe Le Saut, avec mon copain Christophe. Ça, c'était fort aussi, hein, un périple très très difficile, surtout une fin de course très très difficile. Et alors cette délivrance d'arriver au bout, puis en plus à deux, après avoir partagé les moments durs, ça aussi c'était très fort. C'était pas une victoire de course, c'était quelque chose d'humainement très fort. Et ouais. Voilà, ça, ce sont deux beaux exemples pour moi.
Alors, courir en, je vais pas dire en couple, hein, mais à deux, comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que vous avez vécu ça, justement, de devoir traverser toutes ces difficultés ensemble? Parce qu'on dit souvent que le sport, enfin le trail, l'ultra-trail, c'est un sport individuel. À un moment, tu es bien, l'autre, il est moins bien. C'est quelque chose qui est compliqué de se dire bah moi je pourrais accélérer mais le copain il peut pas parce qu'il est pas bien, je dois l'attendre mais j'aimerais bien accélérer parce que j'ai envie d'arriver, etc. Comment vous avez fait pour gérer ça?
Bah c'est à coup là sur cette course là ça s'est passé à peu près à 250 km, donc il en reste encore une petite centaine, mais surtout beaucoup d'heures parce qu'à la vitesse à laquelle on allait à ce moment là il restait du temps. Oui, tu sais, la grande fatigue, quand on arrive vraiment à un stade de grande fatigue, le niveau commence à s'équilibrer. Il y a encore l'un des deux qui peut avoir un plus fort coup de mou que l'autre. Mais avec l'expérience, on sait très bien que la donne va s'inverser pas longtemps après. Donc, c'est céder aussi. C'est-à-dire quand il y en a un qui est plus à l'aise dans la montée, il y a toujours un des deux qui est plus à l'aise dans la montée et l'autre dans la descente. Ben on fait la trace, hein. on cède comme ça, on s'encourage aussi pour pas dormir quand c'est pas le moment, parce qu'on perd aussi en lucidité quand on est vraiment fatigué. Pareil, la lucidité de l'un va aider l'autre, donc on se repose un peu sur l'autre à un moment, et ensuite c'est l'inverse. Donc quand on le sait, on ne peut pas vraiment dire qu'on attend l'autre, on va dire qu'on profite du moment où on se sent peut-être un petit peu mieux que l'autre, et pour récupérer, sauf qu'après on fera le boulot devant un peu plus tard.
Ouais,
après, ça peut être différent quand on fait une course d'un bout à l'autre, avec plus courte, avec un copain. Je l'ai déjà fait aussi. Là, c'est pas évident parce qu'on est sur des rythmes qui sont plus forts. On subit peut-être davantage. Il y a des moments où quand il y en a un des deux qui est plus fort, ben, si on veut s'accrocher, peut-être un peu plus risqué, mais bon, ça s'équilibre aussi, puis ça dépend comment on se connaît aussi. Donc sans discuter, on arrive à sentir les choses aussi, on sait ce qu'il faut faire.
D'accord. Là, c'est intéressant parce que c'est souvent un problème quand on veut courir à deux ou à trois ou en groupe. Donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, tu es surnommé le métronome, j'étais obligé de t'en parler un petit peu. Et Yann me donne l'occasion, il faut nommer Antoine comme président de la SNCF, comme ça il n'y aura plus jamais de train en retard. Bon, c'est peut-être une idée pour une reconversion.
Pourquoi pas ?
Comment est-ce que tu fais pour prévoir tes temps sur des courses que tu n'as jamais fait ? Parce que sur la Diagonale des Fous, bon, après 13 fois, tu peux anticiper à peu près, même si les conditions sont un peu différentes. Mais sur des courses que tu n'as jamais fait, comment est-ce que tu peux faire pour te dire, bah tiens, je vais arriver à tel endroit à telle heure environ ?
Alors, il faut que je m'intéresse vraiment au parcours pour savoir quel est le genre de terrain que je vais rencontrer. Est-ce qu'il est technique? Est-ce que c'est vraiment rocailleux? Est-ce que j'ai des parties roulantes? Voilà, pour déterminer les vitesses que je vais pouvoir avoir. Et ensuite, je vais calculer par rapport au dénivelé qu'il y a, le type de pente, le pourcentage des pentes. Si c'est de la pente que je vais pouvoir trottiner un peu ou trottiner complètement, ou alterner marche-course ou faire que marcher, ça voilà, ça va définir des temps ascensionnels. En descente, c'est à peu près la même chose. Selon la technicité, je vais appliquer une décote à mon temps de dénivelé négatif. Alors, je vais pas donner les chiffres là comme ça parce qu'on y passerait du temps, mais le principe c'est ça, c'est de calculer mon temps ascensionnel. Et une fois que j'ai obtenu un temps final, je vais le comparer avec un autre calcul, c'est-à-dire que je vais mettre la distance à plat. Je vais faire le calcul qu'on fait avec le dénivelé qu'on remet à plat, hein, et je vais voir le temps que je mettrai sur une course sur route sur 120, 130 ou 150 km, et ça va me permettre de voir si je suis à peu près dans les clous. Et puis en dernier recours, éventuellement, je peux comparer avec des résultats d'autres coureurs que je pourrais connaître. Et puis ça peut me permettre de voir si je suis vraiment bon ou si j'étais un peu présomptueux.
C'est toujours difficile de ce point-là, je trouve, parce qu'on on sait pas trop quand est-ce qu'on va avoir les périodes qui vont être un petit peu moins bien durant la course. Du coup, anticiper ces temps comme ça, c'est toujours un point qui est difficile. Et tu anticipes aussi ça des périodes de moins bien, de faiblesse, entre guillemets?
Non, j'en ai plus depuis très longtemps, j'en ai pas. Ah oui, ça m'arrive, hein, ça peut m'arriver, et là, justement, je me plante complètement dans mes temps, bien sûr, ça ressemble plus à rien, mais en principe, ça m'arrive pas, donc je ne vais pas partir du principe que je vais aller moins bien, au contraire, ça m'aide justement à me donner un repère pour voir si je suis plutôt bien parti ou si ça va trop vite. Ça m'est arrivé, par exemple, une fois de me planté bien comme il faut, c'était sur le 100 miles of Istria. Alors celui-là, je m'étais bien fait avoir parce que j'étais parti trop fort assez rapidement. J'avais rejoint les deux coureurs de tête, un Chaponnet et puis Grégoire Kurmer, et on était sur des bases sur un 100 miles de 18h30. Pour moi, c'était trop rapide. Pour eux, ça pouvait peut-être aller, mais en tout cas, pour moi, c'était trop rapide. Mais bon, c'était plaisant. On a couru toute la nuit comme ça. C'était franchement sympa. Oh, puis après, j'ai sauté à 115 km, on a traversé un champ de boue et ça m'a cisaillé les pattes pour de bon. Et après, bah, j'ai subi toute la fin de course et je suis arrivé peut-être 3 heures après ce que j'avais prévu dans le dur. Mais là, voilà, ça ne ressemble plus à rien. Mais bon, bah, j'ai tenté, ouais, je me suis fait plaisir et puis après, bon, j'ai un peu payé. Mais je ne regrette pas. Je regrette pas, parce que c'est une expérience et ça permet aussi de ne pas avoir de regrets. Parce qu'on me dit souvent, ouais, si tu étais allé plus vite, peut-être que tu aurais pu gagner la course. Tu ne regrettes pas. Bon, bah là, voilà, j'ai essayé d'aller plus vite. Je vois que j'ai les limites.
Ouais. Mais quand tu dis que les coups de faiblesse, ça ne t'arrive pas, parce que souvent, quand on est habitué à faire une distance, bon, d'accord, ça n'arrive plus. Enfin, tous ceux qui ont déjà fait plusieurs distances de 50 km, quand ils vont faire un 20, un 30, ça paraît plus facile, enfin voilà, c'est plus normal de ne plus avoir de période de faiblesse. Mmh. Mais Mais même sur un 300 et quelques, t'as pas de coup de moins bien où tu pourrais dormir dans un fossé.
Ah bah, le 300 km, le Tour des Géants, là, c'était en 2014. Là, oui, on a dormi dans l'herbe. Là, on va jusqu'à être complètement fatigué, enfin, au bout du bout, avec des hallucinations. Mais sur un 100 miles, non, j'ai pas les hallucinations. Ouais. C'est assez linéaire dans l'effort. C'est quelque chose que je maîtrise depuis pas mal d'années quand même. Donc, si je suis assez prudent, ça passe bien. Puis il y a plein de signes avertisseurs. Maintenant, je sais les reconnaître quand je dois manger, quand je dois boire, quand je dois arrêter de boire, s'il fait trop chaud, comment faire quand il fait chaud, quand il fait froid, pas tarder à m'habiller quand il faut. Enfin, c'est tout un tas de choses. Après, c'est l'expérience aussi. Et en étant attentif, ben, on évite les coups de moins bien.
Ouais, c'est intéressant. Alors, comment est-ce que tu as vécu, toi, cette année 2020 et ce début d'année 2021 par rapport à toutes ces annulations, du coup, comme tu fais beaucoup de courses, comment est-ce que tu as pu compenser ça, le fait de ne pas pouvoir faire autant de courses? Comment est-ce que tu l'as vécu en tant que coureur qui a fait beaucoup de courses dans l'année?
Bah, alors, en 2020, j'ai réussi à faire 5 ultras malgré tout.
Bien joué.
Ouais, en janvier avant que ça commence, janvier et février avant que ça commence, en mars certainement des derniers trails avec le Seven Trail, c'était vraiment la limite. Donc j'en avais 3 en 3 mois, et puis ensuite j'ai fait le 100 miles chute de France quand il y a eu une accalmie là en octobre, et ensuite j'ai fait une course en Grèce sur route à 140 km sur route en fin octobre, ouais, 3 semaines après le 100 miles. Et voilà, après c'était fini. Bon, je m'estime heureux parce que quand même 5 courses c'était pas mal. Bon, ceci dit, ce qui est pénible, c'est que on a eu une année où on pouvait rien programmer. Moi, j'avais prévu une course par mois. C'était l'année de mes 50 ans, puis je voulais faire une course par mois. Donc j'ai pas pu. C'est dommage. Et puis bah après là 2021, ça recommence. Là, on est encore mal barré. Donc là je vois plutôt avec des courses à l'étranger, enfin en Europe, pas trop loin, mais c'est pas sûr, quoi. Donc on peut pas tabler sur grand chose. Alors quand j'ai compris ça il y a pas longtemps, que encore une fois ça allait être reparti comme en 2020, je suis plutôt dirigé vers des défis, des traversées, des choses à faire avec les copains pour continuer à faire du long, parce que si on s'entretient pas sur des longues distances, le corps ayant mémoire de l'effort, il va devenir feignant après, hein, le jour où on va avoir un 100 miles à faire, il va dire oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc il faut qu'on se débrouille pour faire des longues distances. Donc là voilà, après-demain on se lance avec Renaud Rouanet et Cédric Chavet sur le défi du Sentier Qatar. On va avoir 240 km là en 3 jours, donc ça va faire du bien. Et puis ensuite on en fera un en avril, et puis on va fonctionner comme ça jusqu'à ce qu'on puisse courir avec un dossard.
Et donc là encore, vous avez découpé donc votre trail en plusieurs étapes de 3 jours, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Oui.
Tu peux nous en parler un petit peu de cette découpe que vous avez fait et comment vous l'avez choisi?
Alors bah, c'est le Sentier Qatar, le GR 367, part de Port-la-Nouvelle et va jusqu'à Foix. Donc on va le faire dans ce sens-là. C'est un sentier qui fait à peu près 9000 mètres de dénivelé positif. C'est la petite montagne, 1300 mètres maximum sur ce parcours. Et on va le découper en 3 fois, parce que le but, c'est pas de se mettre trop dans le dur. 80, c'est déjà des belles distances, surtout 3 fois de suite comme ça. Et ça se veut un défi un peu pédagogique, c'est-à-dire que ce qu'on va faire, on va faire des vidéos, on va faire des photos régulièrement pour informer de ce qu'on fait, comment on prépare de la longue distance, qu'est-ce qu'on mange pendant ce moment-là, comment on gère la distance, le dénivelé, les bons gestes, les soins du corps après, s'il faut faire d'automassage, ce genre de choses, le soin des pieds, enfin tout plein de choses. Ça va être comme un terrain d'expérience. On va partager la nôtre. Et si quelques coureurs vont nous accompagner, ils pourront. Bon, maintenant, il faudra qu'on fasse gaffe ou non, bien sûr. Mais le but, c'est ça. C'est de à la fois se faire plaisir avec des longues sorties, et puis partager ça. On s'en sera pas seul. Et puis, je pense que ça peut servir aussi pour les autres coureurs en attendant à leur tour un objectif.
Tout à fait. Les gens ont envie de plein air, d'outdoor et à partager, même si c'est en virtuel, un petit peu votre aventure. Oui. Ça fera du bien, je pense. Donc, c'est une bonne idée. Où est-ce qu'on pourra retrouver ça?
Vous pouvez le suivre sur nos pages, celle de Cédric, celle de ben la mienne, je pense celle de Renaud, s'il arrive à faire de la com. Mais en tout cas, on fera au moins sur la page de Cédric, sur la mienne, sur la page de Kinetic aussi, notre sponsor. Voilà, sur ces supports-là, bon, on fera de la communication, donc par communication croisée, vous retrouverez les endroits où suivre.
Ok, super. Il y a une question, c'est vrai qu'on se demande jusqu'à quel âge est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller faire des ultras pendant aussi de distances aussi longues. Est-ce que toi, tu t'es mis un objectif comme ça? Souvent, c'est vrai qu'on se dit, allez, jusqu'à tel âge, j'y vais, et puis après, je stoppe. Ou est-ce que tu vas juste écouter ton corps et tes sensations?
Ouais, bah, ça fait partie de ma vie. Hein. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai toujours aimé ce qui durait longtemps. Puis, je suis gamin. Dans tout ce que j'entreprenais, il fallait que ça dure. Donc, ce sport me convient complètement. C'est une seconde nature, donc il n'y a pas de raison que j'arrête. Hein. Donc, ce qui me préoccupait un petit peu à un moment, c'était de savoir si je pouvais à quel moment je pourrais être toujours aussi performant. Je m'étais dit que, à mon avis, jusqu'à 55 ans, je devrais pouvoir au moins continuer sur cette lancée-là, progresser peut-être pas, mais en tout cas me maintenir, je pense, sans problème. Et effectivement, là, il y a des moments où j'ai l'impression que je suis encore plus performant qu'avant. Et après, je peux faire évoluer aussi ma pratique. Je peux aussi me diriger de temps en temps, comme là, je l'ai fait en octobre, sur de très longues distances, sur des longues distances, voilà, sur route, des très longues distances, pourquoi pas. Varier aussi en multisport, en faisant des longues traversées vélo, mixé, vélo, trail. Mais en attendant, moi, j'aime bien la compète et je pense que sur le type d'ultra auquel je participe, on verra encore longtemps. Hein, je pense. Hein, et moi, j'aime ça, de toute façon. Je me pose pas la question de l'âge. Hein, souvent, qui disent, ouais, à 50 ans, bon, je me suis même pas posé la question de savoir si j'avais 50 ans ou autre chose. c'est pas les places par catégorie qui m'intéressent du tout. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de foncer, faire ce que j'ai à faire parce que j'adore. Et puis, c'est tout. Donc, vous n'avez pas fini de devoir me supporter.
Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein.
Bon. Ouais.
Comment est-ce que tu as perçu et comment est-ce que tu vois l'évolution du trail au niveau sociétal? On a tendance à un petit peu changer ce sport. Et on parle d'un esprit trail. Est-ce que tu penses qu'il est toujours là? Est-ce que tu penses qu'il a changé? Et comment est-ce que tu le vois dans les années qui vont venir?
Ouais, bah ça, effectivement, c'est intéressant, ça a changé, oui, depuis forcément, hein, depuis une vingtaine d'années que je vois, ça a changé, oui. Déjà par le nombre, parce qu'au départ on n'était pas nombreux, des trails, il y en avait peu, hein, il y avait quelques dizaines de trails, puis après c'était des centaines, et puis aujourd'hui on est à plusieurs milliers. Donc ça a changé, il y a énormément de pratiquants, et puis ça s'est aussi dirigé vers la longue distance. Hein. Avant, il y en avait très peu des longues distances. Et puis maintenant, il y en a donc énormément, de plus en plus longues. Beaucoup de courses extrêmement longues, hein, des 300 km, il y en a maintenant pas mal. Je trouve que c'est le trail est devenu aussi un objet de reconnaissance dans la société. Pas mal de personnes s'en servent pour exister aussi, pour dire bah moi j'ai fait ça, j'ai fait l'UTMB, j'ai fait le Tour des Géants, des courses marquantes, hein, pas des, on va pas dire j'ai fait le Lavaredo, ça parle à personne, même si c'est une course qui fait partie du World Tour, enfin, qui faisait partie, ça parle pas à grand monde, donc les gens ils disent moi j'ai fait l'UTMB, moi j'ai fait ceci cela, et c'est pas forcément bien mené, c'est-à-dire que c'est peut-être souvent trop tôt. C'est au détriment de la santé. Donc voilà, mais ça c'est pas la majorité des coureurs, hein, mais c'est une partie des trailers qui font ça. Et bah, ça montre une certaine évolution aussi qui va plutôt tendre vers la reconnaissance. Voilà, passer un peu pour un héros parce qu'on a fait ça, quoi. En y allant trop tôt. C'est très bien, hein, de faire un UTMB. J'ai rien contre, hein, faire un Tour des Géants, c'est très bien. Je les ai faites, ces épreuves, plusieurs fois, les TMD. Mais attention, quoi, pas y aller trop vite. Et souvent, aujourd'hui, on banalise ces distances et ces efforts. Quand on fait 40 km, ah ben avant bon, et c'est toujours pareil, hein, un marathon c'est 42 km, et c'était quelque chose de très important. Quand on courait sur route le marathon, c'était la grosse épreuve. Aujourd'hui, on fait des entraînements qui font des marathons pour se préparer à des ultra-trails. Et ça nous paraît banal. Mais pour le corps, ça ne l'est pas forcément. Donc c'est là que je pense que l'évolution principale, elle se retrouve là-dedans, dans le trop vite, trop vite. Donc c'est attention à ça.
Un peu de consommer de l'ultra comme on consommerait une série Netflix.
Oui. Alors bon, j'en suis pas un bon exemple, forcément. Si les revues parlent de moi en disant je fais 8, 9, 10 ultras par an, ça m'arrive. Hein. Forcément, moi je les encaisse, mais ça fait très longtemps que je cours. J'ai commencé à 12 ans, ça va faire presque 40 ans que je cours. Donc ça s'est fait, enfin, je cours quoi, depuis longtemps, longtemps. Mon corps il s'est construit, il s'est modifié et pour ça. Je suis taillé maintenant pour ça. Et pas, je suis pas un cycliste, même si ça fait 15 ans que je fais du vélo en complément. Quand je vois des vrais cyclistes passer à côté de moi, je sais que c'est une autre planète. Je vois bien. Donc, il faut se laisser le temps. Je pense se laisser le temps, pas aller trop vite, pour pouvoir profiter longtemps. Et je pense que c'est ça qui est important. On a un très joli sport avec énormément d'épreuves différentes dans plein d'endroits différents. Et c'est quand même assez magique de découvrir des endroits nouveaux simplement par la force du corps en courant, en étant libre comme ça. Donc, c'est dommage de gâcher ça. En faisant trop vite, quoi.
Non, mais c'est très intéressant ce côté sociétal et de valorisation de l'ego. Quand c'est valoriser son ego au bénéfice de sa santé, je trouve que c'est finalement une bonne chose, même si bon, l'ego, on peut toujours en discuter. Ça peut être mis à semer les gens qui se mettent tout le temps en valeur. Bon, c'est un peu pénible quand on doit les écouter tout le temps. Mais quand c'est au bénéfice de sa santé, c'est une bonne chose finalement. Quand c'est au détriment de sa santé, c'est là où ça devient un petit peu inquiétant. Et aujourd'hui, même si personnellement, ça fait que 6 ans que je fais du trail, vraiment de façon intense, au début, j'ai pas l'impression que quand je disais aux gens je fais du trail, ils me disaient, ah bah tiens, je connais un mec qui a fait l'UTMB, ah tiens, je connais un mec qui a fait la Diagonale des Fous. Maintenant, c'est systématique. Dès que tu rencontres quelqu'un et puis qu'il te dit, tiens, que tu lui dis que tu fais du trail dans la discussion, il te dit, ah, je connais quelqu'un qui a fait. C'est tout. Voilà. Ça, j'en ai discuté avec quelques autres personnes et je suis pas le seul à le vivre. Donc, on est de plus en plus aussi à faire ce sport.
Oui, on est de plus en plus nombreux. Et puis après, on est dans la force de la communication. Hein. C'est pourquoi l'UTMB, pourquoi la Diagonale, pourquoi le marathon est simple? Parce qu'ils sont très forts au niveau de la communication, très présents, avec de très belles images. Et donc forcément, pas forcément que derrière, ça donne envie. Et on pense à ces courses tout de suite. Elles sont en tête de gondole, on va dire. Voilà, elles ont été mises en avant, tête de gondole. Et c'est ce qui donne envie.
Tout à
Mais il n'y a
fait.
pas que ça, il y en a d'autres. Je vois souvent des coureurs qui sont très très déçus parce que ça fait 2 ans qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente, qu'ils ne sont pas tirés au sort. Bon, c'est sûr, c'est dommage quand on a l'objectif en tête, mais il y a tellement d'autres courses, donc c'est peut-être un peu dommage.
C'est vrai que des courses, on pourrait en faire quasiment tous les week-ends, et pour autant, ce sont ces courses-là dont on parle tout le temps qui font rêver. Et quand on est organisateur, il doit y avoir un petit côté un petit peu frustrant de ne pas avoir cette mise en valeur, alors qu'il y a des courses qui sont tout aussi belles, tout aussi difficiles, qui sont tout aussi longues, tout aussi bien organisées,
Oui,
qui n'ont pas cette mise en avant, quoi.
j'étais organisateur de la 6666 là, pendant 10 ans avec mon épouse, mais c'est une bataille hein, pour faire développer cet événement. On a eu parfois oui, des coups de mou, parce que quand on voyait par exemple une Maxi Race s'est créée et tout de suite il y a 1000 coureurs sur la longue distance pour être dans les bouchons, dans la brume, dans la boue, alors qu'on propose un parcours fantastique. Dans un milieu sauvage, à souhait, quoi. Vraiment l'âme du trail, bah oui, ça fait râler. Donc on a fini par arrêter, pas pour ça, mais un peu aussi par la transformation des différentes formes de coureurs qu'on pouvait avoir aussi. C'était plus l'âme du départ, c'était des personnes un peu plus consommatrices qu'on commençait à avoir. Et ça m'a déplu. Donc, on s'est dit, non, faut qu'on arrête, on s'y retrouve pas. Nous, on veut procurer du plaisir. Alors, on en procurait toujours, mais peut-être à moins de coureurs qu'avant. Donc, on a arrêté.
Mmh. Ah, c'est ce côté organisateur aussi que tu as eu. Ça a été une période qui a été... je pense aussi intéressante pour toi dans ta carrière de professionnel du trail.
Ouais, c'était vraiment une expérience passionnante. Déjà partager ces coins d'entraînement, c'est vraiment super. Et puis après, il y a tout le montage d'un événement où là, on est amené à rencontrer beaucoup de monde, des personnes très différentes. C'est riche, hein, on apprend beaucoup de choses. Mais c'est quand même un labeur, hein. Faut pas le cacher, c'est extrêmement difficile d'organiser un ultra. Peut-être ouais, bien plus difficile que les petites courses, parce qu'il y a un dossier préfectoral qui est très conséquent. Il y a un nombre très important de bénévoles. Il y a des calculs invraisemblables pour remonter le dispositif de sécurité. C'est compliqué. Et après tout ça, au fil des années, a été de plus en plus compliqué et a pris le dessus sur le plaisir de partager le parcours. Parce que finalement, quand on est coureur, on arrive, on prend son dossard, on suit le balisage, on se fait plaisir, on arrive, on profite un petit peu de l'arrivée. Voilà, ça se résume à ça, la course, et puis les échanges avec les copains. Mais quand on organise, ouais, c'est ça justement qu'on a envie de mettre en avant. Mais ça représente qu'une toute petite partie de tout cet ensemble. Et quand après, la bascule, elle est plaisir et inconvénient, elle est plus équilibrée du tout. Bon, bah, soit on continue parce qu'on est têtu, soit on passe à autre chose. Bon, moi, j'ai préféré passer à autre chose.
Et qu'est-ce que tu penses, toi qui as été organisateur, de cette professionnalisation de l'organisation de trail?
Bah, elle est indispensable parce que notre société évolue. Je dirais que ce qui est malheureux, c'est qu'on est obligé vraiment de se protéger parce que les personnes sont de moins en moins responsables. Alors, on est obligé d'avoir des dispositifs de sécurité qui sont très, très sérieux, très coûteux, parce qu'il faut faire attention. S'il y en a un qui se fait mal, même en se perdant, il va encore accuser l'organisateur de l'avoir blessé alors qu'il s'est planté tout seul. Donc, aujourd'hui, ça devient difficile pour cette raison. Mmh. Enfin, c'est mon avis. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti au fil de ces années. Donc, la professionnalisation, elle est indispensable.
C'est vrai que l'organisation, enfin tous les organisateurs le diront, c'est un travail quasiment à plein temps, surtout quand on a un travail à côté. C'est beaucoup de soirs, beaucoup de week-ends. C'est un très, très gros travail. Et donc, merci beaucoup à tous les organisateurs qui sont encore motivés d'organiser des trails. On ne pense pas assez souvent à eux, à mon sens, parce qu'en ce moment, il faut en avoir du courage pour continuer à organiser malgré les annulations. Donc c'est super chouette d'avoir encore des gens qui ont la foi comme ça. est-ce que y a donc Jean-Fred Ramaille qui demande si un record sur le GR20, ça ne te tente pas?
Non, ça ne me tente pas. J'ai fait le tour sur 5 jours. Ouais, je crois que c'était sur 5 jours. C'est magnifique et c'est très difficile aussi, hein. J'ai vu quel était le terrain. C'est un effort qui est énorme. Disons que faire du défi, j'aime bien dans l'idée, mais après, j'aime bien aussi porter un dossard. Et le nombre d'événements qu'on a dans l'année est pas si important que ça. Donc, je préfère aller sur une compétition avec le copain que tout seul. Puis, j'ai déjà fait des défis. Mais ça, c'est un défi qui a déjà été relevé plusieurs fois, avec là maintenant un temps stratosphérique d'ailleurs. Hein. Je pourrais faire une marque sur le GR20 pour savoir ce que je vaux sur ce type de terrain. Mais je ferai pas mieux que François, hein. Ça, je sais très bien quelles sont mes limites.
C'est vrai qu'il a frappé fort. Hein. Quand je l'ai fait, oui. Je me oui. disais, ah, ça y est, là, il était arrivé. Je n'avais pas fait la moitié. ok, super. Alors, Antoine, j'ai une question. On arrive à 52 minutes déjà. Le temps passe très vite. Est-ce qu'il y a une... une anecdote, un moment que tu as vécu, un truc un peu insolite que tu n'aurais jamais pensé vivre, que tu te rappelles là pendant un ultra. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui t'est déjà arrivé?
Oh bah, il y en a des moments insolites en course, hein, forcément. Il y en a. Ce qui me vient souvent à l'esprit, c'est tous ces moments où, parce que je me suis perdu beaucoup hein, dans les courses, mais il y en a des rigolotes. Je me suis paumé, par exemple, sur la course, le tour de l'île de Minorque, Camille de Cavaz. Et en fait, c'est un endroit où je m'étais déjà trompé. Je m'étais déjà trompé une année. C'est-à-dire que dans une ville de nuit, mais vers 2-3 heures du matin, c'est l'heure à laquelle je passe à cet endroit. Bah, une année, je m'étais trompé en partant à droite, alors qu'ils auraient dû partir à gauche en quittant cette avenue. Bon, j'avais pas perdu beaucoup de temps, mais je me suis dit cette année, il faut que je fasse attention. Je dois tourner à gauche. Donc j'étais tout seul de nuit en tête de course. Et puis je regardais toutes les routes qui étaient transversales à gauche. Et puis et à un moment, je vois au loin une balise, mais à 200 mètres, je vois une balise qui brille sur un poteau. Et je me dis, oh, heureusement que j'ai tourné la tête là, parce que sinon je me serais encore planté. Donc je pars à gauche et puis je fais 200 mètres, je trouve la balise et après je suis quelques balises et j'arrive dans un cul-de-sac, plus rien. Et là, j'ai tourné pendant un quart d'heure, j'ai cherché tout autour de moi, et je revenais en arrière, et puis je voyais toujours cette dernière balise, alors je revenais, je faisais toujours la même erreur. Et puis, j'ai dérangé des gens, donc à 2-3 heures du matin, j'entendais du bruit, ça faisait une demi-heure que je tournais, et j'ai dérangé des gens qui faisaient la fête, ils étaient bourrés. Mais bon, il y en a un qui est quand même descendu et j'ai expliqué, moi je parle pas espagnol, bon, j'ai expliqué qu'il y avait une course, tant bien que mal, et puis la chance c'est que j'avais le numéro de téléphone de l'organisateur sur mon dossard. Alors il m'a prêté son téléphone, j'ai appelé, donc ils sont venus me chercher en voiture, et là je me suis dit bon, je vais monter dans la voiture, ça fait une demi-heure que je tourne, je vais monter dans la voiture et puis ils vont me ramener à mon point d'erreur. Ben, ils ont pas voulu. Et puis, il a fallu que je cours derrière la voiture en ville pendant encore un quart d'heure pour rejoindre le bon chemin. Et j'étais pas loin, j'étais qu'à 5 minutes. Mais je tournais en rond et j'ai pas vu la sortie. Donc, ça m'a reboosté. Bon, plus tard, finalement, pour l'anecdote, j'ai pu rejoindre les deux coureurs qui étaient derrière moi, ils m'avaient remis un quart d'heure et puis je les ai rejoints plus loin et j'ai fini avec un gars. On a fini premier de la course à deux.
D'accord, donc une belle rencontre.
Donc ils m'ont sauvé, ils m'ont sauvé.
Ça aurait pu être un bon plan de soirée improvisée, cette histoire, en finale.
Heureusement qu'ils étaient là, parce que c'était le seul bruit. Là, à 2-3 heures du matin, la ville était morte. Hein. Il y avait que ces fêtards là, sur leur terrasse, mais ils m'ont sauvé la mise.
Ok, alors allez, dernière question, même si je sais que là dans les commentaires, les Bretons ils sont chauds pour t'inviter, ouais. Mais je ne remettrai pas de commentaires, je m'y suis engagé. alors il y a David qui demande si tu as un autre bouquin qui est en chantier actuellement pour compléter la bibliothèque de David.
J'ai un bouquin un peu humoristique, c'est avec Maître G. Donc les questions-réponses à Maître G. Donc il y a ça qui est en route, mais il faudrait que je retravaille. Je suis en train de remanier aussi le Soyons fous, qui commence à dater un petit peu. Donc je voudrais le mettre plus au bout du jour, mais il faut du temps encore. C'est les deux actuellement. Pour l'instant il n'y en a pas d'autres.
D'accord, et Tim Ron Wood, t'as un troisième tome de prévu un jour ou pas du tout?
Oui, j'ai un troisième tome de prévu. La trame n'est pas complètement faite, mais c'est pareil, il me faut du temps. Il faut que je m'y colle pendant 6 mois d'affilée. Et là, pour l'instant, non, c'est pas le moment. Donc, ça viendra, mais patientez.
Ok, ça marche. Alors, Antoine, on arrive bientôt à la fin de cette heure qu'on avait prévue. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Si j'affichais toutes les questions, on serait parti pour toute la soirée. J'ai l'habitude de terminer en général les échanges par une question de savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021.
Comme pour beaucoup de gens, un retour à la normale, ce serait chouette, hein, qu'on puisse se retrouver sur des lignes de départ qu'on aime bien, tous ensemble, c'est ça que j'aimerais. Tout simplement, pas plus.
C'est vrai que ça nous manque, hein, ces ambiances, ces lignes de départ. On a presque l'impression que ça n'arrivera plus, des fois. Je sais pas si ça fait ça, de se dire.
Oui, c'est parfois on se demande. Disons que si on suit la logique de nos dirigeants, s'ils ont si peur du coronavirus, bah après ils auront peur de la grippe. Hein, et là, ça fait des dizaines d'années qu'elle existe. Pour l'instant, on s'en préoccupe pas, mais comme elle est aussi mortelle, c'est peut-être une nouvelle façon de vivre qui nous propose. Masqué, isolé, peut-être à un moment, il va falloir qu'on s'y mette et qu'on bouge, hein, parce que je crois que ça, c'est pas de là-haut que ça va bouger avant un moment.
Bah, il y a le président de la FFA qui a quand même commencé à réagir.
Oui, je sais pas.
Plutôt sur la bonne voie, je l'espère.
Je l'espère aussi, oui, j'espère aussi. On va croiser les doigts et espérons que tout ça revienne un jour à la normale.
Bon, et ben, merci beaucoup Antoine d'avoir répondu à toutes les questions. Où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de tes aventures?
C'est toujours sur ma page, hein, sur ma page, et sur celle de Globetrailer de temps en temps aussi. Vous pouvez suivre là.
Super, eh ben, merci beaucoup Antoine, merci beaucoup à tous d'avoir été présents ce soir. On a battu le record de Thibaut Borognan du nombre de personnes en live. Donc, félicitations Antoine, 375,
Merci.
nouveau record à battre.
Oula.
Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup d'interactions. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu du live Antoine. C'est pas toujours évident et simple, mais bravo à toi. Et merci.
Merci, merci à tous. Merci à tous.
Voilà, merci beaucoup à tous, très très bonne soirée et à mercredi prochain.
Bientôt. À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.